Vous entendez ce feu qui crépite ? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes en quête de frissons, de sueurs froides et de visions cauchemardesques qui viendront perturber vos nuits. Eh bien, vous êtes bien tombé. L'angoisse, c'est ma spécialité. Je suis Taous Merakchi et vous écoutez Feu de camp, le podcast d'Énergie Création qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Alors prenez place, installez-vous confortablement près de moi, éteignez les lumières, concentrez-vous et tendez bien l'oreille. Voilà arrivé au terminus de notre grand voyage au cœur des ténèbres, peuplé de spectres et de monstres parfois bien humains. J'espère que vous avez apprécié l'aventure. Avant de vous quitter pour rejoindre ma crypte, je vous propose une dernière histoire, bien de chez nous cette fois, celle du fantôme du château de Vos. Une jeune fille au destin tragique qui se retrouve coincée pour l'éternité entre les murs d'un vieux château médiéval, ça a de quoi faire rêver. Sauf quand on s'imagine en arpenter les couloirs de nuit, est tombé sur une silhouette désincarnée au visage marqué à tout jamais par la douleur. Tout commence au XVIe siècle, alors que le château de Vos est habité par le baron Guy de Daillon. Homme puissant dans la force de l'âge, son quotidien alterne entre la gestion du château, de son personnel et des habitants de la région. Mais en plus de ses titres de seigneur et de baron, il possède aussi celui de chevalier des ordres du roi, ce qui le force parfois à quitter son petit royaume pour aller au combat. Mais tout ce pouvoir, toutes ces terres, ne suffisent pas à le combler. Alors, en 1559, il épouse Jacqueline de Lafayette, dame de Pont-Gibaud. Cette union ravit les deux parties, qui y trouvent tous les deux leur compte. Seulement, à peine quelques mois plus tard, la graine de la discorde est semée. Elle se présente sous les traits d'une jeune fille de 18 ans, prénommée Lucie. Lucie, qui vient d'une famille noble complètement désargentée, n'a plus d'autre choix que d'offrir ses services en tant que domestique. Un grand château comme celui de Vos a toujours besoin de personnel, après tout. Et puis, Lucie a en plus l'avantage d'être très jolie, ce qui est un atout pour le baron. Elle est donc embauchée sur le champ. Et c'est face à une Jacqueline désemparée et ulcérée qu'une idylle naît entre Guy et la jeune Lucie. Il en tombe éperdument amoureux, allant jusqu'à lui présenter ses plus beaux trophées lorsqu'il rentre de la chasse, alors qu'ils étaient auparavant réservés à son épouse. Il faut donc se rendre à l'évidence. Lucie est officiellement devenue la maîtresse du baron, alors qu'il n'est marié que depuis quelques mois. C'est un coup dur pour Jacqueline qui, bien qu'elle sache que les hommes puissants prennent souvent des maîtresses, a tout de même beaucoup de mal à digérer ce qu'elle considère comme une terrible trahison. Seule dans son coin, elle bouillonne tandis que Lucie et Guy papillonnent. Elle n'attend qu'une chose, se venger. Et sa patience finit par payer. Il fallait bien que ça arrive un jour. Guy est appelé au combat et doit se rendre plus vite sur le champ de bataille pour défendre son roi. Et en l'absence du baron, c'est à sa femme que reviennent toutes les responsabilités. C'est elle qui devient officiellement la maîtresse de maison. Tant que son mari n'est pas capable d'exercer son rôle, c'est elle qui a les pleins pouvoirs. Et pour Jacqueline, c'est l'occasion rêvée de rectifier l'affront qui lui a été fait. Coup de chance pour elle, son titre lui confère un sacré avantage, puisqu'il vient avec la pleine autorité sur son personnel. Elle a pratiquement le droit de vie ou de mort sur ceux qui travaillent pour elle, y compris la jeune servante. Sans s'embarrasser d'un prétexte trop réfléchi, la baronne fait donc enfermer la jeune Lucie dans les geôles du château, située dans la tour dite « mal coiffée ». Elle y est cloîtrée seule. Sa nourriture et son eau sont rationnées pour qu'elle ne reçoive que la dose minimale qui la maintient en vie. Rien de plus. Sa seule compagnie, en dehors des gardes qui veillent sur sa cellule, est celle de la baronne qui vient parfois lui rendre visite. Mais elle ne vient pas pour exprimer ses regrets ou tenter de lui faire comprendre que ce serait sympa, quand même, d'arrêter de coucher avec les maris des autres, non. La baronne vient uniquement pour l'insulter, pour l'humilier et la narguer, afin d'ajouter un peu plus à son tourment. Pour couronner le tout, Jacqueline s'adonne parfois à des sévices corporels lorsque sa colère l'emporte et n'hésite pas à frapper Lucie. Au bout de quelques mois de cet enfer quotidien, Lucie finit par succomber. De faim, de froid, de fatigue ou les trois, peut-être même de tristesse. Et son calvaire s'arrête enfin. L'histoire raconte qu'elle serait morte une nuit de pleine lune et que les habitants qui ne dormaient pas encore ont pu voir, en levant les yeux, une silhouette lumineuse apparaître au sommet de la tour mal coiffée. Le premier témoignage qu'on puisse trouver remonte au XVIIe siècle. Dans une lettre, un baron affirme avoir aperçu une silhouette féminine fantomatique en train de sangloter sur le chemin de ronde. Et ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que les témoignages se multiplient, sans doute parce qu'il devient plus facile d'en garder la trace par la suite. Après les premières histoires évoquant une silhouette lumineuse et a priori pas bien menaçante, le ton change. Un valet d'écurie raconte affolé que, lorsqu'il arpentait les lieux, il a vu sa torche s'éteindre brutalement. Puis, dans le noir, il s'est retrouvé plaqué violemment contre un mur, comme si quelqu'un l'avait bousculé pour passer. C'est alors qu'il a vu, à son tour, la fameuse silhouette lumineuse passer dans le couloir avant de disparaître au loin. Plus de 4 siècles plus tard, les histoires de ce genre abondent. Au fil des années, la légende de Lucie s'est propagée et a dépassé le stade de simple rumeur de village pour devenir un phénomène national. Plusieurs émissions de télé et de radio s'y sont même intéressées, avec toujours le même objectif, tenter d'entrer en contact avec Lucie, de capturer son image ou sa voix. Dans les années 60, un touriste chilien attiré par cette histoire décide de venir y jeter un œil, espérant apercevoir lui aussi la désormais célèbre silhouette lumineuse de Lucie. Au cours de son exploration, s'il n'a rien vu de ses yeux, il raconte tout de même avoir entendu de drôles de gémissements autour de lui. Et dans les années 80, le cirque médiatique s'emballe. Entre-temps, le château a été racheté par Ephraim Tagori de la Tour, qui s'est autoproclamé baron des lieux. Pour aider à financer l'entretien de la demeure, gourmande en frais divers et variés, il organise des visites, des expositions de peinture et entretient la légende du fantôme pour attirer un maximum de monde. Il finit même par proposer des visites quotidiennes de la tour mal coiffée, sur les coups de 23h30, pour ceux qui voudraient tenter leur chance avec Lucie. Les journaux télévisés s'emparent du sujet et les reportages se multiplient, laissant la parole à Ephraim, qui ne manque pas d'insister sur la légende pour cimenter la réputation de son château. Quand il parle de Lucie, il raconte qu'elle se manifeste d'abord à travers des gémissements plaintifs à peine perceptibles, puis par une lumière bleutée qui laisse petit à petit apparaître une silhouette. Les trois endroits où on peut la croiser sont le chemin de ronde, la salle des gardes ou la salle des pendus. Pour augmenter ses chances, il faut se fondre dans le décor et ne faire aucun geste et aucun bruit. Ephraim jure qu'elle est inoffensive et qu'elle ne fera jamais de mal à personne. Mais ça n'empêche pas les curieux qu'il met en travers de sa route de défaillir lorsqu'ils voient leur souhait exaucé. Car c'est une chose d'entendre qu'il y a un gentil fantôme dans ce vieux château, mais c'en est une autre de se retrouver nez à nez avec lui, dans sa forme désincarnée, entourée de cette lumière fantomatique et agitée de ces gémissements qui rappellent sans doute le terrible calvaire qu'ont été les derniers mois de sa vie. En 1984, quelqu'un arrive enfin à capturer l'image de Lucie. Tout a lieu lors de l'enregistrement d'un épisode d'une émission de France Inter intitulée « Boulevard de l'étrange » et présentée par Jean-Yves Casga. Un soir d'août, il se rend au château, accompagné de 2 équipes de reportage. 12 micros sont placés tout le long du chemin qu'arpenterait Lucie dans ses errances nocturnes. Une seule caméra est installée dans la salle des gardes. À ses côtés se trouve également le médium Raymond Réan et sa petite-fille, Aurore, âgée de 9 ans. Durant la journée, rien d'extraordinaire ne vient perturber leur installation. Rien, si ce n'est cette drôle d'impression dont Aurore ne parvient pas à se débarrasser. Elle leur confie qu'elle se sent épiée par quelqu'un, ou quelque chose, qui serait là-haut, dans la tour. Après inspection, les adultes présents ne trouvent rien. Une fois la nuit tombée, tout le monde est en place. Le groupe est installé dans la salle des pendus et attend patiemment, dans un silence feutré, que Lucie se manifeste. Il fait noir, on n'entend plus que la respiration saccadée de l'équipe de tournage. Les 12 coups de minuit retentissent et Lucie n'est toujours pas là. Mais quelques minutes plus tard, c'est Raymond, le médium, qui brise le silence. Il attire l'attention de ses camarades vers la fenêtre, où il affirme voir un étrange point lumineux. Tout le monde reporte donc son attention sur ce qu'il croit être un simple rayon de lune qui se reflète sur la vitre. Et sous leurs yeux, la lueur se met soudain à bouger, se déplaçant un peu sur la gauche, puis à prendre de plus en plus d'ampleur. Elle grandit, 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 et finit par atteindre une taille humaine. Celle qu'aurait, disons, une jeune femme de 18 ou 19 ans, par exemple. La silhouette avance, avance, et va se poser juste à côté de la petite Aurore, qui murmure alors « Pépé, elle est à côté de moi, j'ai peur !» Son grand-père, Raymond, tente de la rassurer, et Aurore alterne entre frayeur et excitation face à cette apparition surnaturelle. Elle s'adresse directement à Lucie, en l'appelant par son prénom. Le fantôme de la jeune fille se promène dans la pièce, sous les yeux ébahis de l'équipe, dont l'une des membres s'écrie même « Bah merde alors, c'est pas possible !» Sans doute était-elle persuadée de s'être déplacée pour rien, la voilà bien surprise de se retrouver nez à nez avec un véritable fantôme. Puis, après quelques va-et-vient dans la pièce, la silhouette finit par s'évaporer. Tout le monde reste quoi ? C'est l'ingénieur du son qui brise le charme en informant ses collègues qu'il a entendu quelque chose de perturbant dans son casque. Un cri humain poussé par une voix féminine. Il est inquiet, un peu paniqué, persuadé qu'il est arrivé quelque chose à l'une des femmes du groupe. Mais tout le monde va bien, et personne ne semble avoir poussé ce cri. Ce n'est qu'en réécoutant la bande, plus tard, qu'on peut entendre ce qui a tant perturbé le technicien. Un hurlement strident, résolument féminin, presque inhumain. La bande-son est alors analysée par les équipes techniques de France Inter, qui cherchent absolument à trouver une explication rationnelle. La seule interprétation plausible est que le micro aurait été exposé à un taux d'humidité très élevé, comme un jet de vapeur. Problème, dans ces conditions, il aurait dû tomber en panne, ce qui n'est pas le cas. Conclusion, la cause est totalement inconnue. À ce jour, nul n'a su expliquer rationnellement ce qui a été vu et entendu cette mi-août 1984. Suite au reportage, le château a vu défiler scientifiques, médiums et curieux en quête de frissons par dizaines, peut-être même par centaines. Tous ont essayé de reproduire les événements observés par l'équipe de France Inter, mais personne n'a réussi à en garder une trace aussi tangible. Lorsqu'on a demandé au baron Ephraim Tagori de la Tour s'il ne craignait pas de vivre dans ce château hanté, il a raconté qu'il n'avait eu peur qu'une seule fois. C'était en 1972, lorsqu'il a entendu un long cri rauque venir de nulle part et partout à la fois. Il a détalé sur le champ et n'est plus jamais allé se promener seul de nuit sur le chemin de ronde. En dehors de ça, il semble très attaché à son fantôme, ou peut-être à l'engouement qu'il suscite auprès des touristes et des médias. Après le décès d'Ephraim, en 1998, le château est resté sans propriétaire quelques années, jusqu'à ce qu'Elizabeth Mincer, une Britannique, en fasse l'acquisition en 2002. Et depuis, rien. Plus personne n'a jamais vu Lucie, ni le personnel qui y travaille, ni les visiteurs qui s'y promènent. Peut-être est-elle enfin passée de l'autre côté ? Peut-être en a-t-elle eu marre de tout ce cirque médiatique, profitant du changement de main pour retrouver son anonymat ? Ou peut-être que tout ça n'était qu'un canular orchestré par un vieil homme excentrique voulant faire rêver les foules et gonfler son porte-monnaie ? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de Lucie est tragique et qu'elle a marqué le lieu pour toujours. Ce château, qui a 1300 ans d'histoire, a dû en voir passer des choses. Des gens puissants, célèbres, aux multiples succès et aux fortunes colossales. Mais c'est elle, Lucie, jeune servante encore adolescente, injustement torturée et morte dans la plus grande solitude, qui en est aujourd'hui le personnage le plus reconnu. C'est une forme de revanche, quelque part. Plus personne n'est là pour vanter la beauté ou la gloire de la baronne Jacqueline de Lafayette, et toute l'attention est portée sur sa victime, Lucie. Alors, ne serait-ce que pour panser un peu la plaie laissée par ce triste épisode, continuons à croire que Lucie est devenue cette dame blanche énigmatique, cette silhouette lumineuse qui fait frémir les mortels et rêver les plus romantiques d'entre nous. Pensons à tous ces lieux qui ont été le théâtre de faits similaires et demandons-nous, n'était-ce qu'un reflet de lune, cette lueur aperçue la nuit sur le chemin de la salle de bain, ou est-ce que les dames blanches sont partout ? Je vous laisse sur cette douce pensée. N'oubliez pas de saluer vos Lucies. Et qui sait, peut-être que nous aussi on se retrouvera de l'autre côté. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création écrit par Taous Merakchi. Retrouvez une nouvelle histoire vraie et paranormale toutes les deux semaines sur toutes les plateformes de podcast et sur energie.fr, rubrique podcast. Merci d'avoir écouté Feu de camp.